Merci. Voilà, nous poursuivons aujourd'hui notre étude suivie de l'évangile de Marc. Donc les trois premiers chapitres de cet évangile nous ont présenté différentes caractéristiques de Jésus comme serviteur. Et dans le quatrième chapitre, nous parlons du royaume de Dieu à l'aide de paraboles. Benjamin et Colin ont déjà médité les paraboles du semeur et de la lampe. Et le texte que nous méditerons ce matin nous rapporte deux autres paraboles de Jésus qui nous décrivent elles aussi le royaume de Dieu à l'aide d'images tirées du monde agricole. Mais sans plus tarder, on va lire le texte et vous allez voir de quoi il s'agit. Je fais la lecture donc dans la version du semeur. Jésus dit aussi « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. » À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé. D'abord la tige, puis l'épi vert et enfin les grains de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Il continua en disant « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter ? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. Par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans se servir de paraboles, et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. La prédication de ce matin se décomposera en cinq points. Nous commencerons par rappeler, si besoin pour certains, ce qu'est une parabole. Et puis on se demandera pourquoi Jésus s'exprime à l'aide de paraboles. Puis je ne sais pas si pour vous l'expression « royaume de Dieu » est claire, mais quand on y réfléchit, peut-être qu'on ne met pas tous le même sens derrière cette expression-là. Puis nous en viendrons aux paraboles de la semence et de la graine de moutarde qui viennent compléter la parabole du semeur, déjà vue, et puis celle de l'ivraie, qu'on verra plus tard, puisque ce sont quatre paraboles tirées du même domaine agricole. Puis on regardera la parabole de la semence, la parabole de la graine de moutarde, et puis on terminera par la conclusion et quelques applications pour nous-mêmes. Pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec la Bible, eh bien je commencerai par rappeler ce que c'est qu'une parabole. J'ai trouvé dans un commentaire biblique cette définition. Une parabole, c'est une histoire terrestre avec une signification céleste. Ça veut dire que ce n'est pas très clair. Une histoire terrestre, donc quelque chose qu'on connaît bien, on a les pieds sur terre, donc c'est une réalité pour nous, avec une signification céleste, là on est un peu moins à l'aise d'imaginer ce qui se passe là-haut. C'est un récit illustré, donc on utilise des images. Une histoire réaliste, c'est pas une fable, c'est pas un conte inventé, destinée à enseigner une vérité spirituelle. Le but d'une parabole, c'est donc d'enseigner une vérité en utilisant un langage illustré, tiré du réel, pour qu'il soit plus facile à comprendre. Et en général, l'idée principale que Jésus veut enseigner apparaît immédiatement. Ça ne fait pas partie de ces textes difficiles où on doit vraiment chercher le sens. Le premier sens d'une parabole, en général, il saute aux yeux. Et on est quelquefois tenté d'interpréter tous les détails d'une parabole. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut vraiment regarder l'arbre central et pas aller chercher les détails dans les côtés. On risque de dire des bêtises, pardon, c'est pas celui-là. J'en donnerai un exemple tout à l'heure. Alors, pourquoi Jésus s'exprimait-il à l'aide de paraboles ? On a une première réponse Il enseignait la parole de Dieu à ses auditeurs en s'adaptant à ce qu'ils pouvaient comprendre. On retombe sur le but d'une parabole, c'est se faire comprendre. Et il ne leur parlait pas sans se servir de parabole. Et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Parce que si une parabole est censée être claire, il est arrivé que les disciples aillent le voir en disant « Mais qu'est-ce que tu viens de parler de quoi là ?» Et Jésus reprend la parabole pour l'expliquer point par point. On l'a vu avec la parabole du semeur par exemple. Mais il y a une autre raison aussi qu'on trouve dans Matthieu 13. Là, je vous lis dans la Bible en français courant. Alors ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit « Vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne des cieux, tandis que cela n'a pas été donné aux autres. On donnera encore à celui qui garde ce qu'il a reçu, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui ne regarde rien, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je leur parle à l'aide de paraboles, parce que tout en ayant des yeux, ils ne voient pas. Tout en ayant des oreilles, ils n'entendent et ne comprennent rien. En eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous aurez beau entendre de toutes vos oreilles, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, il fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne et qu'ils aient à se convertir en sorte que j'aurais pu les guérir. » Je ne sais pas vous, mais moi je me dis, une parabole c'est fait pour comprendre. Mais c'est fait pour qu'il y en ait qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe-là ? Jésus semble dire que la compréhension des paraboles s'est réservée à ceux qui ont reçu de les comprendre. Et en même temps, à d'autres moments, dans Matthieu 10, 27, par exemple, il dit « Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, criez-le du haut des toits. » Et Paul rappelle aussi, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comment est-ce qu'on peut élucider ce paradoxe ? Je n'ai pas la prétention d'y parvenir complètement, mais pour moi, je me fais quelques remarques qui disent, bon d'abord, les paraboles, elles sont énoncées en public. Donc, tous ceux qui veulent aller écouter peuvent les entendre. Tous ont accès à la parabole. Mais l'explication est donnée en privé. Pourquoi ? Je pense que Jésus voulait donner l'explication à ceux qui étaient curieux et qui voulaient l'entendre. Il vous est peut-être arrivé de témoigner à certains moments de certaines choses, et vous voyez les gens tournent les talons, ça ne les intéresse pas. Alors qu'il y en a qui restent et qui ont envie d'essayer de comprendre. J'ai lu déjà dans Matthieu 13, « Vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne des cieux, tandis que cela n'a pas été donné aux autres. » Alors, on sait qu'il y a des questions compliquées, où on n'est pas toujours tous d'accord. Suivant la conception qu'on a de l'élection, de la prédestination, on peut penser que seuls ceux qui sont prédestinés vont comprendre les paraboles. Si on a une autre interprétation, on va dire que ceux qui ont répondu favorablement à l'appel de Dieu, eh bien, eux iront chercher l'explication et l'auront. Une autre pensée que j'ai trouvée dans Matthieu 7, cette fois-ci, où Jésus dit qu'il ne veut pas donner aux chiens ce qui est sacré, ni jeter ses perles aux pourceaux. Une image qui est bien parlante là et qui n'est pas flatteuse pour certains, hein. À propos du royaume de Dieu maintenant, les deux paraboles que nous méditons ce matin nous parlent du royaume des dieux ou du royaume des cieux. En général, les commentateurs s'accordent pour dire que c'est la même chose. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Si on prend un petit temps d'échange là, qu'est-ce que ça évoque pour vous l'expression « royaume de Dieu » ? C'est où ? C'est quand ? C'est pour qui ? Enfin bon, il y a plein de questions qu'on peut se poser. le paradis. Donc si c'est quand, pour nous, c'est pour plus tard. L'ensemble des enfants de Dieu. Si on échange comme ça librement, pour moi c'est un peuple, un royaume, c'est plus un territoire, je sais pas, mais c'est pour essayer d'avancer. Hein. Oui.
Le sein d'Abraham.
Le sein d'Abraham. Oui.
La dimension de la réalité où Dieu règne pleinement.
Ah, que j'aime entendre cette réponse. C'est exactement la définition que j'ai entendue et qui avait été déjà bien suggérée quand tu as donné le Notre Père. On trouve dans le nouveau dictionnaire biblique la définition suivante. Le royaume de Dieu, c'est la sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. Alors, oui, dans le peuple de Dieu, la volonté de Dieu est respectée, pas parfaitement. Elle est accomplie, pas parfaitement encore aujourd'hui. Mais on a les prémices du royaume de Dieu déjà en nous. Ce n'est pas seulement pour plus tard. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, c'est où le royaume de Dieu ? Ben, on l'imagine souvent dans le ciel, moi aussi pendant longtemps j'ai pensé au paradis, mais c'est aussi en nous déjà sur cette terre. Pardon, je confonds quand je dois passer d'une page ici à l'écran. Le royaume de Dieu, ce n'est donc pas un royaume au sens géographique, comme on parle du Royaume-Uni, par exemple, mais c'est là où la volonté de Dieu est respectée, c'est dans le cœur des croyants. Et c'est quand ? Eh bien, c'est à la fois passé, parce que Jésus l'a inauguré lors de sa première venue, c'est présent par le Saint-Esprit qui vit en nous, et c'est à venir, quand Jésus reviendra l'instaurer pleinement. Alors, le royaume de Dieu, ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas une belle image, ce n'est pas un concept philosophique, c'est là où la volonté de Dieu est honorée et respectée. Nos deux paraboles que nous méditons ce matin sont deux parmi d'autres. Elles nous apportent des précisions sur le royaume de Dieu. Chacune d'elles met l'accent sur une caractéristique particulière. Un peu comme un architecte qui, pour que vous compreniez bien à quoi ressemble une maison, eh bien, se contente pas de vous donner un plan, mais fait plusieurs vues. Alors, on voit la vue de face. À droite, c'est la vue de gauche. C'est bizarre, mais c'est les conventions de dessin. La vue de dessus, la vue de dessous, la vue de derrière, la vue de droite. Et la vue en perspective. Bah, convenez que si on ne vous donnait qu'une seule de ces vues, imaginez qu'on vous donne la vue de dessous, par exemple. Difficile d'imaginer ce que ça va être. Même la vue de face, d'ailleurs. On a vraiment besoin de toutes les vues pour imaginer. Je fais partie de la génération qui a pris quelques cours de dessin industriel. Je peux vous dire que c'est un casse-tête d'essayer de reconstituer un objet simplement à partir des vues. Hein, on nous donnait quatre vues comme ça, puis on disait, ben voilà, vous faites celle-là, ben je peux vous dire que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et bien de la même façon, Jésus va utiliser plusieurs paraboles pour décrire le royaume de Dieu. La parabole du semeur nous parle essentiellement de la qualité du terrain qui reçoit la semence. La parabole de la semence nous parle de l'origine de la vie. D'où vient la vie ? Elle vient de la semence. Et puis elle nous parle aussi de la croissance de la plante. La parabole de la graine de moutarde nous parle de l'apparence modeste de la graine. Une simple graine va donner une plante. Et la parabole de l'ivraie, je l'évoque puisque je l'avais déjà évoquée, nous parle de l'opposition que rencontre la parole de Dieu quand on la propage. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le contexte des paraboles, il est clair. Jésus est en train d'enseigner ce qu'est et ce que sera le royaume de Dieu. Et si on prend la parabole de la semence, elle compte quatre versets. Si on la résume, Premier verset, un homme sème. Deuxième verset, le grain germe sans aucune intervention humaine. La source de la vie, elle est dans la graine. On ne peut pas apporter autre chose que la graine. Troisième verset, la croissance de la plante comporte diverses étapes. Puis vient la récolte. Alors je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas vouloir interpréter tous les détails d'une parabole. Par exemple, la récolte, ici c'est dit en juin, juillet, c'est l'été. On ne peut pas en déduire que Jésus va revenir en été. Ça n'a pas trop de sens, vous voyez, de vouloir faire dire des choses à une parabole. C'est manifestement pas ça le sujet de la parabole. Le sujet de la parabole, c'est la graine qui se développe. Première remarque, dans le texte, on voit qu'il n'y a qu'un seul personnage qui intervient. Et que fait-il ? Il sème et il récolte. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis posé la question, c'est qui ? C'est qui ce personnage ? J'ai plusieurs réponses possibles. La première, c'est Jésus. Jésus lui-même, il est venu annoncer, semer le royaume de Dieu. Marc 1, verset 38, « Allons ailleurs, répondit-il, dans les villages voisins, il faut que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. » Et la récolte serait, suivant la façon dont on interprète les Écritures, l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus, je ne veux pas entrer dans cette discussion, ça se fera en même temps, pas en même temps, etc. Ce n'est pas le sujet de la parabole. Deuxième réponse, celui qui sème, ça pourrait être un disciple. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, qui parle au nom de Christ. Les semailles, ça serait notre témoignage autour de nous. La récolte, ça pourrait être la conversion de personnes à qui on a parlé. Et puis, on voit bien qu'entre les semailles et la récolte, il se passe du temps. Il faut que la parole de Dieu chemine pour produire son effet, donc il nous faut savoir faire preuve de patience. Vous avez peut-être une troisième, une quatrième réponse, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que mes deux réponses s'excluent l'une l'autre ? Est-ce que c'est forcément Jésus ou forcément un disciple ? Pour moi, non. Jésus a semé, ça c'est clair. Il va récolter, oui, la royauté va lui être remise. On dit même qu'il règne déjà. Ça n'empêche pas les disciples aujourd'hui de continuer à semer, de récolter. Les choses peuvent être vraies simultanément. Dans les deux cas, nous voyons que le royaume de Dieu survient d'une façon relativement mystérieuse, cachée dans le secret de la terre, dans cette parabole, et que la récolte ne survient pas immédiatement après les semailles. Le royaume de Dieu ne sera pas manifesté immédiatement, mais au temps choisi par Dieu quand il jugera que le fruit est mûr. Cette parabole, je la résumerai par trois verbes. Alors, je n'ai pas le talent de David, moi je n'ai pas trouvé trois verbes qui commencent par la même lettre, j'avoue que je n'ai même pas pensé à chercher. Mais semer, attendre, récolter. Et ce qui me frappe dans cette description, c'est d'abord sa simplicité. Rappelez-vous, Jésus est en train de décrire le royaume de Dieu en trois verbes. Mais il y a autre chose sur lequel je voudrais insister, c'est le verset 27. Qu'il dorme ou qu'il veille, la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. Vous imaginez un agriculteur qui sèmerait, qui partirait en vacances 4 mois et qui viendrait récolter. C'est pas comme ça que ça se passe dans la nature, mais on a une idée essentielle ici de la parabole. La vie provient de la graine, pas de l'agriculteur. Ça veut pas dire que l'agriculteur fait rien. Surtout ne me jetez pas de tomates à la sortie, s'il y a des agriculteurs dans la salle, j'ai pas dit ça. mais ce n'est pas lui qui fait germer la graine. Et ça me rappelle cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » Le texte nous dit que la terre fait pousser le blé, que cela se fait de façon mystérieuse. Alors, j'ai essayé de fouiller dans ma mémoire, est-ce qu'un jour on m'a expliqué l'origine de la vie ? Il me semblait d'instinct que non, qu'on ne me l'avait jamais dit. Alors, j'ai consulté ChatGPT, j'ai fait une première, je me suis dit, tiens, c'est à la mode, t'es en retard, Philippe, donc tu vas quand même aller voir un peu comment ça se passe. Et puis, le résultat, c'est le schéma qu'on a vu. Il nous explique, d'abord, il y a la germination, puis il y a la croissance, il y a la maturation, il y a ci, il y a ça. On nous décrit, mais on n'a pas la cause. Et finalement, quand on y réfléchit, la science fait quoi ? La science nous explique comment l'univers fonctionne, mais pas comment il est arrivé, pourquoi ça fonctionne comme ça. On le décrit de mieux en mieux, de plus en plus précisément, mais le mystère reste. Alors, le rôle de l'agriculteur, lui, c'est de créer des conditions plus ou moins favorables. Mais il ne sait pas provoquer la vie. Eh bien, de la même façon, personne ne sait ni ne peut expliquer comment l'Évangile peut convertir, régénérer, pardonner, sanctifier et sauver un pécheur. Ça, nous, on ne sait pas l'expliquer. La part de l'homme, c'est de semer, d'arroser, c'est-à-dire d'annoncer la parole et d'accompagner ceux qui l'entendent pour qu'elle porte du fruit chez ceux qui la reçoivent. Mais nous n'avons pas le pouvoir de convaincre et d'amener à la foi. Ça, c'est la part de Dieu. J'ai trouvé ce commentaire. Personne n'a besoin de donner de la vie à la graine. Elle la possède en elle-même. On n'a pas besoin d'ajouter au message de l'Évangile. Il se suffit à lui-même. La terre n'est qu'un berceau où la semence dépose la vie. Elle est inerte, la terre. Elle ne possède pas la vie en elle-même. C'est la graine qui possède cette vie. Le cœur humain, si c'est lui la terre, ce n'est pas lui qui possède la vie. Il doit la recevoir. C'est donc dans la semence et en elle seule que nous sommes appelés à placer notre confiance. Ah, j'ai zappé une vue qui avait juste pour but de vous rappeler les différents processus et d'expliquer que là, on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. Il y a un mystère. La seconde parabole, la graine de la moutarde. La plus petite graine, alors je me suis dit, ça y est, là, il y a quelqu'un qui va aller chercher si c'est vraiment la plus petite graine qui existe. Honnêtement, je n'en sais rien. Un commentateur prudemment dit, c'est la plus petite graine qu'on utilise dans le potager. Bon, je ne me prononcerai pas là-dessus. Et qu'on ne me dise pas que je ne crois pas que la Bible est vraie en tout point. Là encore, ça ne me paraît pas l'essentiel de la parabole. Une toute petite graine va donner une plante qui a un développement spectaculaire. On se dit, mais comment ça peut provenir de quelque chose d'aussi petit ? Alors en méditant cette parabole, je me suis dit, mais il y a quand même un parallèle intéressant à faire avec la vie de Jésus. Il est venu au monde dans une étable. Est-ce qu'on peut imaginer un début de règne plus modeste ? Vous connaissez beaucoup de rois qui sont nés dans une étable ? Et à l'époque, à part les rois mages, et puis Hérode pour d'autres raisons, personne n'a prêté attention à ce bébé. Puis les rois, sa vie dans des châteaux en général. Lui, il a mené une vie itinérante, n'ayant pas d'endroit où déposer sa tête. Et comme pour la graine de moutarde, il nous a dit que son apparence était la plus modeste. Mais sa croissance a été spectaculaire. Dès le début de son ministère, des foules immenses venaient l'écouter. Et aujourd'hui, son église compte des millions de fidèles. Et elle ne cessera de croître jusqu'au jour où, choisi par Dieu pour la récolte. Quand on parle royaume, on pense en général à fastueux. Je ne sais pas, le roi d'Angleterre va quand même finir par venir en France. On va sortir l'argenterie, tout, enfin les grandes choses. Et les Juifs attendaient un roi un peu comme ça, puissant, avec une armée et tout. Eh bien, non. Le royaume de Dieu, il est initié par un simple homme, sans armée, sans richesse, du moins au sens où on l'entend généralement. L'idée principale de cette parabole me semble être qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier à ce qui brille, à ce qui attire le regard. Ce qui est insignifiant aujourd'hui peut devenir immense à l'avenir. Il vous est probablement arrivé de vous sentir bien seul comme chrétien dans certaines circonstances. Mon épouse ne m'en voudra pas révéler qu'elle était la seule élève avec le pasteur pendant le culte. Elle avait des cours en tête-à-tête avec le pasteur. Je ne sais pas si vous auriez aimé vivre cette situation. Nos enfants étaient souvent les seuls chrétiens de leur classe. Peut-être que ça vous arrive aussi pour les vôtres. Et parmi vos collègues, il n'y en a probablement pas beaucoup qui partagent votre foi. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire là où sa volonté est respectée et accomplie, ben, si on regarde en France et dans notre monde occidental, il est en train de fondre comme neige au soleil. Rappelez-vous, là où la volonté de Dieu est honorée et accomplie, ben, vous trouvez qu'on est dans un pays où on honore et on accomplit la volonté de Dieu ? Non, on n'est pas dans le royaume de Dieu. Et pourtant, le message de l'Évangile continue de se répandre dans le monde entier et à produire son œuvre. Convaincre des cœurs de péché et amener à la repentance, puis à l'obéissance. La puissance du royaume de Dieu n'apparaîtra pleinement que lorsque Jésus reviendra sur terre. Je lis un verset d'Apocalypse 11, verset 17. « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton royaume. » Le même verset traduit dans Parole vivante, « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, souverain universel, qui est et qui était, nous te remercions de t'être servi de ton immense puissance pour prendre le gouvernement en main, ton règne a commencé. » Qu'avons-nous appris sur le royaume de Dieu grâce à ces deux paraboles et quels enseignements on pourrait en tirer ? Eh bien, une première évidence, c'est que une semence, c'est fait pour être semée. Sans semaille, il n'y a pas de récolte. C'est vrai dans l'agriculture, c'est vrai dans le domaine spirituel. Si la parabole du semeur nous parlait de la nature du sol, c'est-à-dire des dispositions de cœur des gens, la parabole de la semence insiste sur le fait que la vie provient de la graine et d'elle seulement, donc de la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de convaincre l'homme de son péché et de l'amener à changer. Et ça, en préparant cette prédication, j'ai été interpellé aussi parce que on a partagé ça avec plusieurs frères ici, et c'est une pensée que j'ai aussi. On témoigne aussi beaucoup par notre comportement. Je pense que les gens regardent comment nous vivons et voient des choses. Mais ça, je me dis que c'est probablement quelque chose qui peut susciter une curiosité, un intérêt. Mais une fois qu'on les a amenés à l'église, pour une fois ou deux, ils viennent pour être curieux, mais il faut surtout qu'ils entendent le message de l'Évangile à ce moment-là. Il ne faut pas croire que notre témoignage à lui seul va suffire à convaincre des gens. Il faut saisir l'occasion et annoncer la parole de Dieu. Tout le savoir-faire de l'agriculteur ne saurait créer la vie. Il n'y a aucune technique d'évangélisation qui saura à elle seule susciter des conversions si elle ne s'appuie pas sur la puissance de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, nous dit Paul dans Romains 16. Je l'ai dit et répété, mais c'est dans la semence et en elle seule qu'il nous faut placer notre confiance. Autre leçon, la croissance de la plante se fait selon des étapes bien précises. on ne peut pas sauter les étapes. Quand on veut que quelqu'un se convertisse, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il comprenne tout tout de suite, qu'il accepte tout tout de suite. Il y a des gens qui ont des conversions spectaculaires et quasi instantanées, mais pour beaucoup de gens, ça prend plus de temps. Dieu fait chaque chose en son temps. La parabole de la graine de moutarde nous montre la croissance aussi extraordinaire d'une graine, ce qui illustre aussi la croissance de l'Église. Pour nous, c'est banal parce que c'est comme ça depuis qu'on connaît l'Église. Mais ça fait 2000 ans que ça dure. Il y a combien de royaumes terrestres qui ont duré 2000 ans ? J'en connais pas. J'ai cherché un peu par curiosité quels ont été les plus grands royaumes. Alors il y a des royaumes en Asie, au niveau de la Chine et tout, mais apparemment celui qui a été le plus grand, ça a été le Royaume-Uni. Et j'ai découvert, peut-être que David s'y était intéressé, il n'est plus là maintenant, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni couvrait le quart du globe terrestre. On disait que le soleil ne se couchait jamais sur le Royaume-Uni, mais eh bien le Royaume-Uni, il a fondu aussi. Et il n'est pas éternel. La graine de moutarde donne naissance à un royaume qui a une croissance où tout le monde, nous est dit, où tous les oiseaux pourront se réfugier. Donc, ne nous fions pas aux apparences et ne nous laissons pas décourager par le monde qui se moque de notre faiblesse apparente. Je terminerai en lisant le commentaire de la Bible d'études Vie Nouvelle à propos du passage qu'on a lu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez cette version, c'est mon épouse qui a cette version-là de la Bible. Et c'est une version qui est très tournée vers les applications pratiques. Donc si vous êtes à la recherche d'applications pratiques de la parole de Dieu, cette version Vie Nouvelle devrait vous intéresser. Je cite, Dieu promet une moisson. En même temps, j'ai les bouches sèches, il y a mon inconscient qui doit parler là. Dieu promet une moisson abondante et d'excellente qualité. Notre témoignage peut nous paraître bien faible, et nous pouvons considérer que tous nos efforts donnent de bien maigres résultats. La parole de Dieu n'en est pas moins un extraordinaire moyen de croissance. Gardons à l'esprit la grande moisson à venir et continuons à témoigner fidèlement sans nous laisser décourager par la sécheresse du terrain ou la présence de mauvaises herbes. Bon, là, il y a un peu toutes les paraboles agricoles qui sont mentionnées. Après avoir commencé à une échelle locale, toute petite, le royaume progresse dans le monde entier pour former une vaste communauté. Si nous nous sentons parfois seuls dans notre consécration au Christ, rappelons-nous que Dieu construit un royaume à l'échelle du monde. Il a ses témoins fidèles dans chaque partie du globe, et notre foi, aussi petite soit-elle, peut s'associer à celle des autres pour l'accomplissement de grandes choses. Amen. Amen.
Merci Philippe. On peut remercier le Seigneur pour ce repas, ce temps où on a pu se nourrir spirituellement. On arrive maintenant à la fin de notre fête. C'est le moment de remercier notre hôte, de lui chanter nos louanges et de nous soumettre à lui en reconnaissant toute sa gloire. Et pour ça, je vous invite à conclure ce culte en chantant le 519 à l'agneau de Dieu.
compassion.